Maintenant, c'est la main verte avec Alain Baraton, lui aussi, à l'autre bout d'une ligne. Alain Baraton, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour Patricia, bonjour à tous.
Bonjour Alain.
Alors Alain, vous nous parlez aujourd'hui de l'herbe de la Pampa. À quoi ressemble-t-elle ?
Eh oui, j'avais envie de vous parler de cette herbe. Vous la connaissez, vous en avez souvent vu. C'est une graminée qui atteint facilement les 3 mètres de hauteur. Et ses longues tiges se terminent par des plumets blancs ou jaunes. Jaune, je devrais plutôt dire jaunâtre. Rose aussi, mais c'est plus rare. Alors cette plante, Pierre, est devenue très à la mode dans les années 1960-1970. Mais elle a parfois mauvaise réputation. Il se dit que les serpents y feraient leur nid, qu'elle favoriserait les départs des incendies et qu'elle donnerait au jardin un aspect kitsch. Mais tout ça, voyez-vous, me semble un petit peu exagéré.
Mais Alain, pourquoi s'appelle-t-elle herbe de la Pampa ?
Pour une raison simple et logique. Elle est originaire des grandes prairies d'Amérique du Sud, et plus précisément d'Argentine, du Chili et du Brésil. C'est dans cette région du monde appelée Pampa que vivent principalement des graminées, des herbes à feuilles parfois si minces qu'elles peuvent devenir blessantes, d'où le nom scientifique de l'herbe de la Pampa, à savoir Cortaderia, qui signifie en Argentine, mais là je compte sur Patricia Martin pour me le confirmer, qui signifie donc coupant.
Et j'applaudis.
Voilà, parfait.
Merci Patricia.
Depuis quand est-il permis d'en avoir dans nos parcs et jardins, Alain ?
Alors, il est très difficile de dater avec précision son arrivée en France, mais il est fort probable que les tout premiers spécimens aient été cultivés au Jardin des Plantes de Montpellier en 1857. Depuis, comme je vous le disais, il y en a beaucoup et à certains endroits, il y en a trop. L'herbe de la Pampa est invasive, même si son espérance de vie n'est que d'une quinzaine d'années. Un seul pied pierre est capable de produire des dizaines, voire des centaines de milliers de graines qui peuvent parcourir avec le vent et bien sûr avec les oiseaux jusqu'à 25 kilomètres. Alors il est donc aujourd'hui très fortement déconseillé d'en planter le long des côtes normandes et bretonnes pour éviter sa diffusion, on s'en doute, dans les espaces fragiles. Il en est de même le long du littoral de l'Atlantique et de la Méditerranée. Sur l'île de la Réunion, il est interdit depuis avril 2009 d'en posséder et donc d'en acheter ou d'en vendre. En France métropole, beaucoup de voix s'élèvent pour que là aussi, il soit dans les années à venir interdit de s'en procurer. Et si vous le permettez, Pierre, je voudrais revenir. Hier, vous me demandiez à quoi ressemblait le parc déserté par ses visiteurs.
Bien sûr.
Je voudrais en profiter pour rappeler que nous ne tondons pas actuellement l'ensemble du domaine et que nous en profitons pour étudier les végétaux qui apparaissent. Sous Louis XV, le domaine de Trianon en particulier était un domaine totalement consacré aux sciences et des grands botanistes ont fait quelques expérimentations botaniques. Depuis ce temps, nous tondons, nous fauchons régulièrement. Cette année, nous avons arrêté de tondre certains endroits. Eh bien, on retrouve, par exemple, dans certains secteurs, de la silène. C'est une plante que l'on ne trouve qu'en Corse ou à Trianon, parce que justement le grand monsieur de Jussieu travaillait à la cultiver. On a découvert également des variétés de coque lourde. C'était des végétaux très employés sous Louis XV. Comme quoi c'est extraordinaire, des plantes sont capables depuis presque 200-300 ans de se réensemencer tous les ans sans qu'on les remarque. Au moins le virus nous permet aujourd'hui d'étudier leur comportement et qui sait, peut-être de les préserver pour les siècles à venir.
Alain Baraton qui parle de son environnement immédiat, c'est formidable. Alain, des questions pour vous sur franceinter.fr. Jacques, ma glycine est couverte de boutons, mais ils deviennent gris et sèches avant de fleurir. Est-ce normal ?
Je devrais répondre un peu comme un médecin. Si on n'a pas devant soi le patient, il est difficile de faire un diagnostic. Je dirais qu'il y a pour moi 3 hypothèses. La première, j'y crois guère, un gel tardif qui peut endommager les glycines, même si celles-ci résistent aux gelées les plus basses. Deuxième hypothèse à laquelle il serait possible de croire, la sécheresse de l'atmosphère. Les bourgeons n'aiment pas tellement, les boutons encore moins. Pourquoi pas ? La troisième hypothèse, celle vers laquelle je penche, serait une attaque de cicadelle. Les cicadelles, c'est comme des petites sauterelles, pour faire simple. Elles piquent la fleur pour se nourrir de la sève, et la plante, en réaction, eh bien, ne peut plus ouvrir son bouton et là va sécher et même la plante risque malheureusement d'en mourir. Donc je pense que c'est peut-être une attaque de cicadelle dans tous les cas de figure. Donc il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est supprimer les bourgeons qui ne servent plus à rien mais qui peuvent contaminer l'ensemble du végétal.
Pierre nous a écrit: nous avons fait planter l'an passé une haie de laurier du Caucase par un jardinier. Nous constatons que celle-ci a perdu pas mal de feuilles, probablement dues à la maladie observée, à savoir des taches marron et des perforations. Quelle peut être la cause de cette maladie ?
Merci Pierre de parler immédiatement de maladie et non pas de d'insectes. On a souvent tendance à croire quand le feuillage est troué que ce sont des bestioles qui sont venues manger. Là, pour faire très simple, vous prenez une haie de feuilles, c'est comme si quelqu'un avait tiré à travers la haie au fusil à pompe avec des tout petits plombs. Mmh. Effectivement, eh bien on appelle ça la maladie criblée. C'est un champignon qui perfore les feuilles, qui fait de gros dégâts. Il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'il faut déjà faire, ne pas arroser le végétal. Pour une raison simple, humidité, chaleur égale risque d'attaque cryptogamique. Deuxièmement, tailler la plante de manière à ce que la ramure puisse s'aérer et le vent faire sécher le végétal, donc limiter la propagation de cette maladie criblée. Les amoureux de bouillie bordelaise adoreront en dispenser. Je n'aime pas beaucoup, il paraît que ça a quand même de l'efficacité. Mais voilà, pas grand-chose à faire. Humidité, chaleur est la cause très principale bien de la maladie criblée.
Alain, très vite.
Alain Marathon, je peux vous poser une question ?
Allez-y.
Oui.
Il y a un auditeur hier qui nous a envoyé un mail pour demander si j'étais amoureuse de vous. Qu'est-ce que je dois lui répondre ?
Eh bien, répondez. Laissez votre cœur parler, Patricia.
Voilà. Parfait.
Moi, je vous aime, Patricia.
Voilà. Mon cher Alain Marathon, à la semaine prochaine avec Éric Delvaux.
Ça, au revoir. Au revoir.